Les pieds dans le parc.
Du 9 au 11 octobre dernier, le domaine du Pradel à Mirabel accueillait les rencontres 2019 du réseau ERPS, Espace Rural et Projet Spatial. Objectif affiché de ces rencontres, interroger les nouvelles formes d'action et de démocratie à l'œuvre dans les territoires ruraux dans la perspective plus large de la transition écologique. Des rencontres qui viennent rappeler qu'au sein du parc naturel régional des Monts d'Ardèche, la question des habitants et de l'habitat est toujours d'actualité.
Le parc naturel régional des Monts d'Ardèche a pour objectif l'accueil, le maintien d'habitants, d'activités. Et pour tout cela, donc, il faut inventer de nouvelles manières d'habiter.
Jérôme Damour, chargé de mission architecture, urbanisme et paysage au parc des Monts d'Ardèche.
Des nouvelles manières qui soient plus économes en foncier, en énergie, qui refassent une place à l'espace public pour réorganiser la vie dans les villages, redonner envie de vivre en centre-bourg. Et donc, pour accompagner ces réflexions, on fait appel à des étudiants ou des chercheurs qui sont là donc pendant 3 jours au CERMOSEM.
Ça complète finalement ce qui se passe de manière un peu plus régulière sur le territoire, c'est-à-dire la venue de groupes d'étudiants des écoles d'architecture. Ça arrive à plusieurs reprises. Là aussi, le parc est moteur de ces rencontres sur le territoire et de ces résidences même, on peut dire.
Ça fait une dizaine d'années que le parc naturel régional des Monts d'Ardèche accueille des écoles d'architecture, des écoles de paysage aussi, des écoles d'agronomie. Plus spécifiquement sur les écoles d'architecture, l'idée c'est de bénéficier de ce regard de jeunes étudiants pour inventer, innover, partager aussi ces nouveaux enjeux autour de la question d'habiter en milieu rural avec des élus. Donc ça contribue pour les étudiants à se former sur les enjeux en milieu rural et puis pour nous, habitants des Monts d'Ardèche, d'imaginer de nouvelles manières d'habiter, c'est-à-dire à la fois de construire en Ardèche pour du logement, pour de l'activité économique. Ça permet de se questionner sur les déplacements, les mobilités. Ça a aussi un grand intérêt pour réfléchir au devenir des centres-bourgs. Avec ce regard d'étudiant, on imagine comment redonner envie de vivre en centre de village ou en centre de bourg.
Marc Verdier, enseignant-chercheur à l'école d'architecture de Nancy, fait partie des enseignants qui viennent sur le territoire des Monts d'Ardèche avec leurs étudiants. Pourquoi cet intérêt de la ruralité pour des écoles urbaines ? Réponse de Marc Verdier.
Il y a deux raisons qui se complètent très bien. La première raison, c'est il me semble que la ruralité ou les campagnes, les villages, sont une matière pédagogique de haut niveau pour former nos professionnels de demain. Parce que ce sont des lieux où se rencontrent les questions d'habitat, les questions de production, les questions de gestion des ressources. Et c'est sans doute un lieu où, en plus, nos étudiants peuvent rencontrer facilement des acteurs, des habitants, des commerçants, des élus. Moi, le maire de la commune où on était cette année à Saint-Pierreville, on a pu le rencontrer 5 fois. Il est venu dîner un soir avec nous, on a rencontré des acteurs. Moi, si je travaille à Nancy dans ma ville, pour voir le maire, c'est pas possible. Donc il y a aussi cette idée, comment je travaillerai demain en tant que professionnel autrement. Donc il y a l'idée que c'est un site et des lieux qui au niveau pédagogie sont riches. Et puis le deuxième enjeu, c'est que je pense que c'est ici que s'invente sans doute une forme d'avenir, alors je vais être très... pour le monde, pour la planète. Je pense qu'on est en train de basculer. Aujourd'hui, on ne parle que des métropoles. Moi, je pense que l'avenir des territoires, c'est sans doute une autre ruralité plus productive et plus prometteuse.
C'est en ce sens-là que vous enseignez justement aux futurs architectes ?
Oui. Absolument. C'est-à-dire, je pense que la transition écologique dont tout le monde parle, ça veut dire quand même qui sont et comment sont formés les professionnels qui vont être acteurs de cette transition.
Quelle est la démarche justement lorsqu'ils viennent sur un territoire comme celui de Saint-Pierreville et qu'est-ce que vous en avez sorti ?
Alors on a une équipe de 10 étudiants, nous étions 2 pour les encadrer, donc on est une équipe de 12. Ce qui est évidemment intéressant, y compris pour nous enseignants et eux, c'est qu'on n'en sait pas plus qu'eux quand on arrive. Les étudiants en partant de Nancy me disent « Mais monsieur, c'est quoi la question ? Sur quoi on va travailler ?» Et je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est justement de l'enquête. On fait un peu les Sherlock Holmes du territoire. On va découvrir, on va écouter, on va parcourir et on va petit à petit comprendre où en est ce territoire, qu'est-ce qu'il a déjà inventé et en quoi à un moment donné, nous, avec nos compétences singulière, on peut faire avancer et répondre à des questions qui se posent aujourd'hui, qui nous sont posées aujourd'hui. Donc la question, c'est découvrir un territoire, le comprendre, entendre les besoins et les attentes exprimées ou pas encore exprimées et apporter nos débuts de compétences pour les étudiants et puis quelques solutions, quelques ouvertures de ce que pourrait être ce territoire dans 10-20 ans.
Et vers quoi vous avez tendu justement à l'issue de cette semaine ?
Je pense que les étudiants vont beaucoup, parce que je pense que c'est un vrai sujet, sur alors, l'autonomie connectée. Cette question, comment des territoires vont être des territoires résilients, subsistants, résistants, avec leurs propres ressources, de faire vivre au mieux les populations qui sont là, ou qui s'y installent, ou qui ont envie d'y rester, ou d'y venir, ou d'y passer, mais en même temps dans un monde connecté, dans un monde ouvert.
Au détour de ces rencontres, qui avaient lieu du 9 au 11 octobre à Mirabel au Pradel, Gilbert Chabot, maire de Saint-Pierre-de-Frugy en Dordogne, nous explique qu'après avoir revitalisé son village en s'appuyant notamment sur la nature préservée et une gestion écologique, il a rencontré Marc Verdier.
J'avais entendu parler des ateliers hors les murs que fait Marc Verdier et j'ai demandé d'aller voir la restitution de ces chantiers. Donc je suis allé à Nancy et quand j'ai vu ce qu'il faisait, je trouvais que c'était extraordinaire. Je l'ai harcelé pendant 3 jours pour lui dire de venir dans le Périgord, ce qui n'était pas prévu dans ses projets. Nous, on a résolu le problème de l'hébergement puisqu'on avait ce gîte de 18 personnes avec une salle commune pour pouvoir faire les cours. Donc il est venu et ça a été pour nous une révélation et pour lui aussi d'ailleurs puisqu'il a découvert qu'il y avait des communes qui faisaient des choses mais aussi qui étaient en attente et... C'est là que c'est vraiment il s'est passé des choses. Oui, voilà.
Mais qu'est-ce qui vous ont apporté concrètement une autre vision? C'est-à-dire que moi j'étais assez axé sur le développement, c'est-à-dire on n'avait plus de place, ou déjà on commençait à avoir des prémices de manque de place. Donc je me suis dit, on va faire un écolotissement, on va faire ceci, on va faire cela. Et là, ils nous ont recentré en disant qu'il fallait plutôt densifier le centre-bourg, faire du bâtiment intergénérationnel en ajoutant un module plutôt que de s'étendre ou de faire des trucs. Ils nous ont vraiment recentré, donc c'est ce qu'on a fait. Et lorsqu'ils sont revenus l'année dernière, ils ont constaté qu'on avait, non seulement on avait écouté, mais on avait tout réalisé ce qu'on avait dit ensemble et que maintenant on était quand même obligé de faire un écolotissement, voilà, puisqu'il n'y avait plus de place. Voilà.
Le réseau ERPS, Espace Rural et Projet Spatial, a été créé entre autres par Xavier Guillot, professeur à l'ENSAP de Bordeaux. Et les rencontres, comme celle de Mirabel, aborde les thématiques que choisit année après année, également via un regard international. Xavier Guillot.
On a 2 sessions sur le Brésil et sur le Japon. Pour cette 10e rencontre, on a souhaité qu'il y ait une sorte de regard croisé entre ce qui se passe dans notre pays et ce qui se passe ailleurs sur des sujets communs, des enjeux communs qui sont les territoires ruraux. C'est assez pertinent de faire des croisements.
Et qu'est-ce qu'il en ressort justement de ces croisements? Est-ce qu'on retrouve les mêmes problématiques en France qu'ailleurs?
Oui. Bon, avec des variantes locales, mais les grandes problématiques sont les mêmes. Des territoires qui sont aussi dans des formes de combat pour résister au processus de métropolisation et à trouver un sens à leur devenir. Et pareillement, dans tous les pays, des actions citoyennes qui visent justement à agir pour trouver un devenir à leur territoire.
Oui, parce que l'une des forces justement de ces rencontres, c'est aussi de se dire qu'aujourd'hui les choses changent et qu'on parle plus du « nous », du « avec » que de subir les décisions.
Eh oui, c'est vraiment l'ADN de notre réflexion. C'est sortir du regard surplombant des politiques, des acteurs, des décisions et voir comment le terrain apporte des solutions. C'est tout à fait dans l'air du temps, je pense, au niveau politique. Ça l'était moins il y a 10 ans, quand on a commencé, on était un peu isolés sur cette question de la ruralité, dans le milieu des architectes, hein, et plutôt sur des questions d'espace urbain, de métropolisation. Et là, nous, on a souhaité inverser les regards et poser la question du devenir des territoires ruraux dans un contexte économique qui est le nôtre. Quoi.
Vous trouvez que ce sont des territoires où il y a plus d'interactions entre habitants et élus que dans les milieux urbains, les milieux ruraux justement?
Ah, je pense qu'il y a plus de proximité, oui. Je pense qu'il y a plus de proximité entre les habitants et leurs élus. Et je pense qu'il y a souvent des causes plus fortes qui les mobilisent, notamment autour de la terre, du monde du vivant, de l'alimentation, de l'énergie. Tout ça, c'est maintenant, je dirais, au cœur de la problématique des territoires ruraux, quoi. Et c'est relayé par tous les acteurs et les habitants. Et maintenant, nous, on le souhaite dans les écoles d'architecture par les futurs praticiens.
Et vous trouvez justement ici, sur ce territoire, des élus en prise avec ces constatations que vous avez faites?
À l'Ardèche, c'est notre, c'est notre terre d'expérimentation. Hein. On y vient depuis le début. Hein. On a des liens avec le PNR des Monts d'Ardèche, les CAUE, depuis 10 ans. C'est une terre très féconde sur le plan des actions menées par les habitants et les élus sur ces sujets. Une sorte de laboratoire.
Exemple de cette internationalisation des rencontres RPS avec deux doctorantes rattachées au laboratoire Abyss de Sao Paulo au Brésil. Mathilde Texeira-Coll et Anaïs Guéguin-Perrin nous décrivent en quelques mots les problématiques brésiliennes qui, toutes proportions gardées, peuvent rappeler certains modèles européens.
Alors, on est dans des contextes territoriaux très différents vis-à-vis de cette question de la réforme agraire qui a eu lieu en France et qui n'a pas eu lieu au Brésil. Donc, on est encore sur des systèmes de lutte pour la terre avec un acteur principal qui est le mouvement des sans-terres, le MST. Ça, c'est peut-être la différence la plus flagrante.
Ouais. Après, au niveau des points communs, il y a le contexte capitaliste global qui exerce de grosses pressions sur la paysannerie. Ça prend différentes formes. Peut-être qu'au Brésil, ce sont des formes un peu plus violentes au niveau matériel et physique. Mais les engrenages de pression du capital et du fonctionnement capitaliste et industriel lié à l'agriculture sont très similaires, en fait. Ici, on a quand même une situation socio-économique avec des différences réellement moindres qu'au Brésil. Les manières dont ça se manifeste et les solutions aux conflits prennent des dimensions totalement différentes au Brésil.
Le processus de réforme agraire qui est largement pas abouti et, mais qui est en place déjà depuis les années 90, là c'est stoppé avec à partir du début 2019 avec l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir. Les occupations des sans-terres qui revendiquaient une terre pour cultiver, pour vivre, actuellement il n'y a plus d'installation des paysans au Brésil, c'est complètement stoppé. Donc ces gens continuent d'occuper des terrains sans réponse.
Si vous souhaitez approfondir cette thématique de la ruralité en action, des transitions économiques et de la nouvelle ruralité, je vous invite à vous connecter. C'est au www.erps.archi.fr.
Les pieds dans le parc, réalisé par Fréquence 7 et RCF, avec le parc naturel régional des Monts d'Ardèche et le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes.